Good Morning Business. Le débat.
Et c'est martelé désormais quasiment chaque jour. Le travail, c'est la priorité du gouvernement. Il faut faire en sorte que l'écart entre le non-travail et le travail se creuse. Alors Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, je vous pose la question. Comment on fait,
Nicolas ? Je vais essayer d'apporter des réponses très précises. Ce qui est intéressant, c'est que le débat sur travail, non-travail, il n'est pas nouveau. Mais là, c'est martelé. Ouais. Par Bruno Le Maire depuis l'été, maintenant par Gabriel Attal.
C'est la première chose qu'il a dit, Gabriel Attal.
Par Olivier Dussopt.
Est-ce que je peux dire la phrase qu'il a dite il y a deux jours, effectivement, lors de son intronisation, si je puis dire. Il a dit exactement qu'il fallait arrêter que ceux qui travaillent aient moins que ceux qui ne travaillent pas.
Alors, là-dessus, un mot, le non-travail ne paye pas mieux ou aussi bien que le travail. Mais il est des situations, à certains niveaux de salaire, où l'arbitrage entre ce que le revenu de l'assistance va apporter et ce que le revenu du travail va apporter fait que rationnellement, l'individu peut arbitrer pour le fait de ne pas travailler. Mais des cas, des endroits de niveau de rémunération. Maintenant, dire que le non-travail paye mieux que le travail, c'est pas le cas. Mais il y a un phénomène politique important avant de répondre comment on fait. C'est qu'on se rend compte que maintenant, il y a une cible prioritaire, c'est la classe moyenne. La classe moyenne du bas, vous savez. Celle qui gagne juste suffisamment pour ne pas échapper à l'impôt sur le revenu. Celle qui gagne évidemment trop pour avoir droit à quoi que ce soit. Même le tarif cantine, c'est niette, voilà. Systématiquement éligible à absolument rien. Et celui qui ne gagne malheureusement pas assez quand même pour se dire « je vis vraiment confortablement ». Et qui se dit en fait « je bosse ». Mais je bosse pour ceux qui travaillent pas. Et ça énerve considérablement. Vous vous souvenez de la vidéo virale, le gars qui insultait même les travailleurs en disant « Continue à bosser, abruti. Grâce à toi, j'ai 1800 euros tous les mois avec l'allocation adulte handicapé » pour laquelle il expliquait qu'il l'avait obtenue de manière anormale, enfin...
Frauduleuse.
APL et RSA. Et donc maintenant... On a un débat très vif sur ce sujet, plus vif en France que dans d'autres pays, parce qu'on a un État-providence plus généreux chez nous. C'est pas compliqué, les Anglais, vous savez, ils ont mis l'indemnité chômage par semaine pour tous à 98 livres, pour tout le monde, hein, peu importe le salaire d'avant. Alors là, c'est sûr que vous avez réglé le problème. Donc, comment on fait ? On a un millefeuille d'aide sociale qui fait qu'on n'a jamais réussi à trouver la bonne solution. La bonne solution qui fait que, quelquefois, une petite augmentation fait que ça va éteindre X ou Y allocation, qui fait qu'à l'arrivée, vous gagnez quasiment la même chose et que l'augmentation, vous ne la voyez pas dans le net à payer. Donc, comment on fait ? Il y a un moment où vous devez décider de donner plus à certains ou de donner moins à d'autres. Hein. Si vous voulez que l'écart se creuse vraiment entre non-travail et travail, il faut que ça se voit. Il faut que ce soit des vrais euros d'un côté ou des vrais euros retirés de l'autre. Alors, on a eu un début de réponse avec le RMI. Et puis, on s'est rendu compte que la complexité du dispositif faisait qu'on n'y arrivait pas. Parce que quand vous prenez les aides sociales, vous avez quasiment autant de payeurs d'aides sociales qu'il y a d'aides. Un coup, c'est la CAF, un coup, c'est la région. Et puis, les critères d'attribution de l'aide ne sont pas les mêmes en fonction des aides. Cette aide, elle vous est attribuée en fonction de la composition du foyer. Cette aide, elle vous est attribuée en fonction, je sais pas, de votre âge. Ou cette aide vous est attribuée en fonction de vos revenus. Donc, espèce de fusion de l'ensemble pour avoir un truc rationnel, on n'y est jamais arrivé. On va pas baisser le RSA, on va pas baisser les aides sociales. C'est inimaginable d'arriver et de dire, on va tailler dans l'État-providence. Et puis, vous aviez l'habitude d'avoir 550 euros par mois, ça va être 300. C'est impensable.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, il faut payer plus ceux qui bossent.
Alors, on augmente le SMIC. On va arriver sur les charges.
Alors, on augmente le SMIC. On augmente le SMIC et on a un problème de compétitivité parce que les boîtes se trouvent avec un coût du travail augmenté et on n'arrive plus à insérer dans le monde du travail les non qualifiés. Alors on baisse les cotisations, mais on est déjà à zéro cotise au niveau patronal. Alors on baisse des cotisations salariales pour qu'il y ait plus dans la poche des gens. Ouais, mais on paye comment le modèle social à l'arrivée? Ou alors on fait la prime d'activité. La prime d'activité, très bien, ça donne plus d'argent, plus de revenus aux gens qui bossent, mais ça veut dire que dans ces cas-là, on creuse la dépense publique.
Jean-Marc Daniel, travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler. Voilà ce que dit Gabriel Attal.
Oui, ça me paraît aller de soi. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Encore que je considère qu'effectivement, il faut laisser une certaine liberté aux gens. Si les gens estiment que sans travailler, ils arrivent à avoir une vie décente, après tout, pourquoi pas? Vous savez, Voltaire le disait, les gens finissent toujours par travailler parce que le travail, c'est un moyen de se défaire du besoin. C'est un moyen, effectivement, de contourner les vices. Mais c'est aussi un moyen d'éviter l'ennui. Et donc, ce que Voltaire explique dès Zadig et ensuite dans Candide, c'est qu'il arrive un moment où les gens qui s'ennuient finissent par travailler.
Les loyers étaient peut-être moins chers à l'époque.
Indépendamment des loyers, ils finissent par travailler justement indépendamment des loyers parce qu'ils s'ennuient. Quel que soit l'état des loyers, ils finissent par travailler. Et donc, et justement, à une époque où on peut considérer que.
Mais Jean-Marc, moi je vous attendais sur les charges en disant que c'était ça qu'il fallait baisser.
Ah non, pas du tout. Je pense que les charges, il ne faut pas les baisser. Je pense qu'il faut privatiser la sécurité sociale et comme ça on aura le bon niveau de charges. Mais baisser systématiquement les charges en disant ça va permettre de donner davantage de salaires, ça se traduit par le fait que la CADES qui devait être là pour 12 ans est toujours là. Elle a été créée créée en 1995.
Elle sera là en 2100. Hein.
Voilà, qu'on n'a jamais eu autant de dettes sociales et que notre État-providence est grévé de dettes et passe maintenant son temps à verser des intérêts plutôt que de verser des prestations sociales.
On a mais fait, il fait les deux. Il continue à les verser, les prestations.
Oui, mais enfin, on fait en sorte qu'effectivement, ouais, une partie de nos cotisations sociales sert à payer le système monétaire et financier.
Mais donc, l'idée, c'est quand même comment, effectivement, mieux rémunérer le travail, comment encourager les gens à travailler davantage, à part l'ennui, et qu'est-ce que peut faire le gouvernement?
Oui, alors je pense, alors pour rebondir sur les outils, d'abord on peut augmenter le SMIC, mais je pense que effectivement tous les rapports sur le SMIC montrent que c'est pas la bonne solution. Toute la commission du SMIC, elle a une sorte de constante dans son discours, ouais, alors... consiste de pas de coup de pouce. La deuxième solution, c'est effectivement de mettre en place des formes d'aide sous ce qu'on appelle l'impôt négatif. Je pense qu'il faut revenir à l'esprit de l'impôt négatif tel que Friedman l'avait théorisé dans Capitalisme et démocratie. Et ce qu'expliquait bien Friedman, c'est que non seulement l'impôt négatif, c'est-à-dire on verse une somme à tout le monde, doit s'accompagner du fait que la fiscalité elle-même doit cesser d'être progressive. C'est-à-dire qu'un des enjeux aussi, c'est le fait que non seulement il y a le travail qui sont les gens qui sont dans le bas de l'échelle des revenus, mais il y a aussi le travail des gens qui sont les plus qualifiés, qui n'ont pas incité, parce que si on...
Le sentiment, c'est que plus on travaille, plus on paye d'impôts.
Plus on paye d'impôts.
Et proportionnellement, en plus.
Et exactement. Et donc, une des façons aussi de mobiliser le travail, et notamment le travail qualifié, et notamment le travail donc le plus porteur d'avenir, c'est de faire en sorte que ce travail lui-même ne soit pas abusivement taxé. Donc je pense qu'il faut faire un impôt négatif et un impôt progressif.
Et bien on attend avec impatience
un impôt proportionnel, pardon,
de Gabriel Attal, le et Premier ministre, qui devrait dérouler sa feuille de route.
On n'a pas le droit de réagir à l'impôt négatif.
Non.
Impôt négatif et impôt proportionnel.
Non, vraiment là, on est très, très, très.
C'est très, très dommage. Hein.
Et on continuera le débat à 8h30 avec nos invités.
Marqué, ça fait des années qu'on en parle.
Oui, et puis il y aura les propositions de Gabriel Attal.
Impôt négatif et impôt proportionnel.
On aurait dû prendre une résolution de 5 minutes de plus d'Os Daniel.
Non.
C'est bien ça.
Oui, mais alors pas aujourd'hui, peut-être à partir de demain.